Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage, ce soir, les Occidentaux, bien à la peine face à la diplomatie des otages du régime iranien. C'est parce que toutes les négociations diplomatiques ont échoué que le troisième otage français en Iran a décidé lundi dernier de sortir du silence et de dévoiler son identité. Depuis la terrible prison d'Evin à Téhéran, où il croupit depuis plus de 2 ans, Olivier Grondeau a réussi à faire passer ce message à Radio France.
Je suis tout à fait conscient que cette prise de parole m'expose aux représailles de mes ravisseurs. Dans notre situation, prendre la parole, c'est prendre un risque. Mais il y a risque, donc il y a espoir. Et il m'en reste très peu. J'ai beau penser à la vie qui m'attendrait après, au retour. C'est un vieux rêve qui ne suffit plus à donner du sens à cette veille épuisante. Vous, qui avez le pouvoir d'influer sur cette affaire, que vous soyez, entendez cette vérité extérieure à toute idéologie. Les forces de Cécile, les forces de Jacques, les forces d'Olivier,
voilà pour cet émouvant appel à l'aide. Alors qu'ils sont à bout de force, les trois otages français, Olivier Grondeau, qu'on vient d'entendre, mais également l'enseignante Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris. Des otages d'État, dénonce le Quai d'Orsay, officiellement emprisonnés pour espionnage. L'accusation toujours la même avec laquelle le régime iranien arrête et emprisonne des citoyens étrangers ou binationaux pour faire pression sur la communauté internationale. Une stratégie de la diplomatie des otages face à laquelle les diplomaties occidentales semblent bien impuissantes. Comment peuvent-elles sortir de ce bras de fer sordide avec Téhéran ? On en parle ce soir avec nos invités. À mes côtés dans ce studio, Chirine Ardakhani, l'avocate d'Olivier Grondeau et présidente du collectif Iran Justice. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne avec nous, Clément Terme, chargé de cours à l'université Paul-Valéry de Montpellier et auteur de l'article « La diplomatie des otages de Téhéran » publié sur le site de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à tous les deux sur RFI. Clément Terme, pour commencer, pourquoi la France n'arrive pas à faire libérer nos trois compatriotes alors que le régime iranien vient de libérer une journaliste italienne et une militante germano-iranienne?
Alors les négociations sont extrêmement complexes. Pour la France, la diplomatie des otages de Téhéran date des années 80 finalement. Au début, c'était plutôt au Liban, à travers des groupes pro-iraniens qui ont notamment pris des journalistes en otage. Et ensuite, à partir du milieu des années 2000 et de l'émergence du contentieux nucléaire, on a vu un ciblage plus récurrent des citoyens français sur le territoire iranien. Il ne faut pas comparer les situations entre les différents pays, à mon sens, puisque détenir un passeport français en Iran n'a pas la même signification que détenir un passeport italien. Les risques ne sont pas les mêmes. Donc il ne s'agit pas de comparer les réponses italiennes et les réponses françaises, mais plutôt, au contraire, je pense, de comprendre pourquoi il y a un ciblage particulier contre la France. Donc ça s'explique notamment par la guerre Iran-Irak, c'est le premier facteur, l'alliance avec Saddam Hussein, cette mémoire de l'appareil de sécurité iranien, qui considère qu'il s'agit du péché originel, si vous voulez, de la diplomatie française. Et donc cette mémoire est très prégnante, parce que la génération qui a fait la guerre Iran-Irak et celle qui prend en otage les ressortissants français aujourd'hui. Et le deuxième facteur, c'est les négociations sur le nucléaire et ce statut particulier de la France, qui est à la fois un État occidental, européen et membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui fait partie de la Troïka, qui a négocié le 13 janvier à Genève avec les représentants iraniens sur la question nucléaire.
Alors que cherche précisément l'Iran avec ses prises d'otages, même si on l'a bien compris, la valeur d'un otage français dans le jeu de Téhéran est plus importante. Allô ?
C'est pour moi la question ou
C'est pour vous, monsieur.
Ah, pardon, vous n'avez pas attribué. Donc, en fait, si vous voulez, ce que recherche l'appareil de sécurité, c'est d'avoir une influence sur les politiques françaises. Et il utilise ces détentions arbitraires comme un levier politique pour gérer sa relation diplomatique avec la France et plus largement au-delà de la France, qui est un des leaders de l'Union européenne, avec l'Union européenne, et en particulier dans les cas qu'on évoque aujourd'hui, les arrestations ont eu lieu en mai 2022 et à l'automne 2022, donc dans le contexte, dans un cas des manifestations d'enseignants et dans l'autre du mouvement Femmes de Liberté, le régime iranien fait un lien entre la révolte, si vous voulez, le mouvement révolutionnaire en Iran et les actions de l'État français dans des théories complotistes. Donc il s'agit en priorité d'illustrer, si vous voulez, le récit iranien et d'organiser une guerre de l'information avec les États occidentaux.
Ce n'est pas seulement une monnaie d'échange, ces otages, c'est également une stratégie pour déstabiliser les Occidentaux. Clément Terme ?
Oui, tout à fait, exactement. C'est une stratégie de confrontation, finalement, et d'affirmation de la souveraineté iranienne. Alors là, nous parlons de cas de citoyens qui n'ont que la nationalité française, mais dans le cas des binationaux, il s'agit aussi d'envoyer un message à la diaspora iranienne. Donc là, on a aussi un ciblage qui s'explique par d'autres raisons, qui sont plus liées, si vous voulez, à la surveillance, au contrôle de ceux qui détiennent un passeport iranien et qui résident à l'étranger, du point de vue du régime, dans sa paranoïa sécuritaire, éviter cette connexion entre l'intérieur du pays et l'extérieur du pays.
Shirin Ardakhani, je rappelle que vous êtes donc l'avocate d'Olivier Grondeau, mais également l'avocate de Narges Mohammadi, le prix Nobel de la paix. On a entendu au début de cette émission toute la détresse d'Olivier Grondeau. Que sait-on de leurs conditions de détention à tous ces otages étrangers? La France, hier, parlait de véritables tortures.
Alors oui, il faut rappeler que, évidemment, le caractère de la détention d'Olivier Grondeau est résolument arbitraire, ce qui signifie qu'en réalité, aussi bien son arrestation, puisqu'il a été arrêté alors qu'il était en simple voyage touristique le 12 octobre 2022, donc il y a plus de 2 ans et 3 mois aujourd'hui. Je dis arbitraire parce qu'évidemment, les charges dont il a été non seulement accusé, mais condamné, puisque le tribunal révolutionnaire de Shiraz l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement le 19 février dernier, pour espionnage, donc évidemment il est innocent.
Toujours la même accusation.
Alors ça varie de temps en temps, mais en tout cas c'est une des constantes, effectivement. Alors évidemment il est innocent de tout, c'est ce qu'il explique, puisqu'il n'a pas arrêté de clamer son innocence. Il a été condamné, donc évidemment privé de garantie du droit à un procès équitable et de se défendre convenablement, puisque effectivement, même si il a le droit officiellement à une avocate, Maître Halimi, iranienne, les parloirs sont aléatoires. Sa famille a été longtemps laissée sans aucun signe de vie. D'ailleurs, elle a appris très tardivement, bien plus d'un mois après son arrestation, qu'il était détenu officiellement par les autorités iraniennes, de la même façon que les autorités consulaires françaises ont été prévenues dans un second temps. Donc, c'est-à-dire que là encore, en violation manifeste des droits de toute personne détenue à voir sa famille avertie et la protection du pays dont il se rattache. Donc sur les conditions en tant que telles, aujourd'hui il est détenu dans une des prisons les plus sécurisées du pays, la prison d'Evin, celle dans laquelle les prisonniers politiques, d'opinion, de conscience sont arrêtés. Il est dans le quartier des hommes, de droit commun. Alors il faut comprendre les conditions dans lesquelles il se trouve, c'est-à-dire que chaque matin à l'heure de la prière, il y a des camarades de cellule qui sont exécutés et qui sont pendus. Donc quand on parle de violence, c'est pas juste des violences physiques, en réalité c'est des violences psychologiques. Et aujourd'hui, on est très préoccupé de sa santé mentale qui se dégrade, parce qu'on peut comprendre qu'il y a une angoisse aujourd'hui existentielle pour Olivier, et qu'il l'a dit dans son message, qu'il perd espoir. Et donc c'est ça aujourd'hui pour nous l'inquiétude, c'est sa santé psychique qui se dégrade.
Pour Olivier Grondeau, mais également pour les autres otages français, on entendait la prix Nobel Narges Mohammadi qui dénonçait elle-même tout récemment l'état de santé effroyable de la Française Cécile Kohler.
Oui, tout à fait. Alors, Cécile Kohler est détenue à Yvelines également, mais dans le quartier 209, hein, donc qui est un quartier un des plus durs de la prison politique, à l'isolement. L'isolement, il faut bien comprendre ce que ça signifie. C'est-à-dire que le détenu est privé de tout contact avec l'extérieur. Le détenu est déshumanisé. C'est-à-dire qu'en fait, la porte de sa cellule est fermée 24 heures sur 24. Il ne peut sortir qu'à de très rares occasions et uniquement à l'appréciation souveraine de son geôlier. Ça veut dire que les contacts avec la famille de Cécile Kohler sont très aléatoires. Il n'y a pas de régularité dans ces appels passés à la famille. Narges Mohammadi décrivait il y a quelques jours un état de santé affaibli puisqu'elle n'a pas pu la voir directement, mais une de ses co-détenues a été quelques heures seulement en lien avec elle. Et donc, effectivement, on a un état de santé très, très préoccupant et avec une durée de détention là qui est assez inédite. Et il y a urgence, effectivement, à ce qu'il y ait une mobilisation plus large pour que nos otages nous reviennent, parce que déjà c'est pas nos otages et surtout parce qu'ils sont innocents de tout, encore une fois, et je le rappelle.
Alors on l'a dit, les Occidentaux, à commencer par les Européens, semblent bien impuissants face à ces prises d'otages. Clément Terme, comment combattre ce sentiment d'impunité du régime iranien et cette pratique sordide de la prise d'otages?
Alors, il faut bien préciser qu'il n'y a pas de réponse facile, que c'est un travail diplomatique complexe et que malheureusement, ce sont surtout des tractations secrètes qui, in fine, permettent la libération des otages. Et certes, la mobilisation de l'opinion publique occidentale et dans ce cas, l'opinion publique française est importante, notamment pour la reconnaissance de la souffrance et pour l'établissement de la vérité par les familles des victimes et des comités de soutien. Mais au final, il n'y a pas de sensibilité particulière, si vous voulez, du côté de l'appareil judiciaire iranien ou de l'appareil de sécurité par rapport à ces mobilisations. Cela peut influer sur les conditions de détention, même s'il y a un débat là-dessus. Par contre, la libération concrète, c'est une tractation. Donc il y a le problème aussi de la multiplication des prises d'otages. Notamment, vous avez mentionné le cas italien. Mais il peut y avoir aussi dans la réponse, la contrepartie qui est accordée à ces libérations, un débat sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire l'impunité et la tentation de reproduire le système, si vous voulez. Donc on voit des solutions différentes, hein. Ça peut être un échange de prisonniers, donc un otage innocent européen en Iran en échange d'un prisonnier qui, lui, a été condamné dans un système judiciaire européen à la suite d'un procès équitable, ou pour avoir des compensations financières, des rançons, pour avoir aussi du dégel d'avoir, donc une réponse aux sanctions, donc à la stratégie des sanctions. Et vous avez aussi, dans le cas de la France, ce qui complexifie ces dossiers, la volonté de garder, si vous voulez, des leviers dans la perspective des négociations nucléaires à venir et avant l'arrivée de l'administration Trump. Donc ça dépend aussi de facteurs qui sont externes, si vous voulez, dans le cas français, à la relation bilatérale franco-iranienne, puisqu'on voit que l'un des déclencheurs du mouvement auquel on assiste actuellement, cela a été le retrait américain de l'accord sur le nucléaire en 2018.
Et
donc c'est à la suite d'une action américaine qu'on voit une multiplication des prises d'otages de ressortissants européens en Iran.
Alors vous l'évoquiez justement, Paris a haussé le ton, elle se montre désormais beaucoup plus offensive par rapport à Téhéran et elle ligne notamment maintenant la levée des sanctions et la libération des otages. Est-ce que ça peut être une stratégie qui pèse?
Dans tous les cas, pour les trois otages dont on parle aujourd'hui, il n'y a pas eu de solution ces derniers mois qui a été trouvée, qui était facilement identifiable. Donc il y a une tentative de conditionner un accord plus large, ou en tout cas une désescalade à la levée des sanctions. Le problème, là encore, c'est que cette question des sanctions est très liée à la politique américaine. Donc en l'absence de souveraineté réelle européenne par rapport aux lois extraterritoriales américaines, il y a une complexité que la République islamique a identifiée, une vulnérabilité des diplomaties européennes vis-à-vis des sanctions extraterritoriales américaines. Et donc c'est un jeu complexe entre d'un côté la stratégie à venir de l'administration Trump, le positionnement des Européens et les objectifs poursuivis de court terme en Iran et aussi le débat interne en Iran parce qu'il y a aussi plusieurs factions et donc parfois on assiste aussi à des questions de conflits d'autorité à l'intérieur du système politique iranien qui peut expliquer certaines arrestations et certaines détentions arbitraires.
Shirin Ardakhani, comment, à votre sens, les Occidentaux peuvent combattre, faire face à ces prises d'otages par le régime iranien ?
Alors, moi, je n'ai pas le beau rôle, évidemment. Je vais jouer le rôle de l'avocate de service, hein, ce que
qui
je
vous
suis,
va bien.
En réalité. Mais je n'ai pas de solution, évidemment, toute faite. Il ne s'agit pas de dire à la diplomatie française ce qu'elle serait en droit ou pas de faire. Je serais bien mal fondée. En revanche, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on récuse, en tant que juriste et évidemment militant des droits humains, la diplomatie des otages. La diplomatie des otages, ça veut dire la loi du plus fort. Ça veut dire la loi du rapport de force violent, de la rançon sur les vies humaines, du chantage sur les vies humaines. Ça, évidemment, c'est insupportable pour qui réclame les strictes applications des textes internationaux, du respect du droit international. Donc, évidemment, que nous, ce qu'on va vous dire, c'est que pour lutter contre l'impunité, il faut se saisir des outils qui existent en droit international. C'est de faire en sorte que, de nouveau, on a des institutions qui sont placées sous l'égide des Nations Unies. Je rappelle qu'il y a des précédents de saisine par des États dans le cadre, justement, de contentieux en lien avec des otages. En 1979, l'acte constitutif de la République islamique d'Iran, ça a été de prendre l'ambassade américaine et de constituer des otages, le personnel diplomatique américain. On se souvient que d'ailleurs, une requête avait été adressée par les États-Unis à l'époque, d'État à État, devant la Cour internationale de justice pour demander la stricte application du droit international. Alors ça, ce sont évidemment des réflexes. On explique que les juristes que nous sommes seront utopistes, que nous serions utopistes d'expliquer que, plutôt que la diplomatie des concessions réciproque de bout de table, d'État à État, loin du regard des citoyens et finalement loin du regard du droit, ça ce serait possible, mais je pense que c'est une impasse à la fois morale, parce que comme l'a dit Clément Terme, ça revient à faire des concessions réciproques et de livrer des criminels de guerre. On se souvient de Olivier Van der Kassel, qui était un travailleur humanitaire belge, qui a été remis aux autorités iraniennes en échange d'un prisonnier iranien qui avait été condamné par la justice belge pour avoir commis des attentats ou en tout cas tenté de commettre des attentats sur notre sol.
Il faut refuser ces échanges, quitte à mettre en danger...
C'est-à-dire que je vous l'ai dit, je suis bien mal fondée à dire qu'il faut refuser. Ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres voies qui sont complémentaires et qui sont possibles, qui sont les voies du droit. Et je crois qu'il ne faut jamais balayer d'un revers de main cette voie-là. C'est aussi la nécessaire mobilisation de la société civile. Peut-être là, de mon point de vue, une divergence avec Clément Terme, qui d'ailleurs, je respecte absolument son analyse. Les opinions publiques sont en mesure de faire pression, parce qu'il faut bien comprendre que la République islamique, elle est engagée aussi aujourd'hui dans une bataille de l'image à l'égard des puissances occidentales. Le nouveau président dit réformateur Pezeshkian, en tout cas, essaye de montrer des gages envers la communauté internationale. Et quand on rappelle que l'État iranien est un État ravisseur, eh bien, il y a quand même un coût politique pour la République islamique. Donc je crois qu'il faut mobiliser les sociétés et l'opinion, parce que c'est aussi une bataille politique qui se mène sur le terrain de la société civile.
Clément Terme, vous l'évoquiez il y a un instant, le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump lundi prochain, et dont on connaît la franche hostilité envers Téhéran, est-ce que ça va accroître le risque pour tous les ressortissants étrangers ?
Alors, de toute façon, il faut rappeler que la consigne qui est donnée, c'est de ne pas se rendre sur le territoire iranien pour les ressortissants européens. La première chose, c'est ne pas s'exposer au risque de cette détention arbitraire. Ensuite, pendant l'administration Trump, on a vu cet accroissement des prises d'otages de manière factuelle à partir de mai 2018 des ressortissants européens, qui est une conséquence indirecte, qui était liée finalement au départ des entreprises européennes. Mais on a aussi vu, sous l'administration Trump, cette diplomatie dont parlait Shirin Ardakhani, secrète, et un échange de prisonniers, notamment le premier doctorant américain à se rendre sur le territoire iranien pour effectuer une recherche pour l'université de Princeton, qui a été pris en otage lors de son séjour de recherche en Iran.
On mesure tout le danger. Et on le répète, comme le Quai d'Orsay, voilà. Il ne faut pas aller en Iran. Ce sera le mot de la fin. Merci Shirin Ardakhani, avocate d'Olivier Grondeau, présidente du collectif Iran Justice. Merci à vous également Clément Terme, chargé de cours à l'université Paul Valéry de Montpellier. Je renvoie nos éditeurs vers votre article « La diplomatie des otages de Téhéran ».